Bonjour, chers frères et sœurs. C'est une belle journée. Nous sommes officiellement au printemps, heureusement. Je me fais l'écho des commentaires de Monsieur Chelofé. Je me réjouis vraiment de l'arrivée du printemps. C'est merveilleux de le voir. Les températures à partir d'aujourd'hui semblent être agréables, du moins dans la région de Wadsworth. Nous allons donc passer directement au message. Passons au chapitre 23 du Lévitique. Lévitique, chapitre 23. Nous sommes ici le dernier jour des pains sans levain, et il est donc normal que Dieu nous ait donné ces jours chaque année. Il nous a donné tous les jours saints chaque année pour que nous puissions nous souvenir de ces choses. Vous savez, nous célébrons le sabbat chaque semaine afin de nous souvenir du royaume de Dieu et de nous en réjouir chaque semaine. Chaque sabbat, nous nous réunissons dans ce but. Le sabbat de Dieu est censé être un repos pour nous, afin que nous puissions attendre le repos à venir de Dieu. C'est très simple, mais nous le faisons chaque semaine. Les jours saints sont différents. Ils sont annuels, mais de la même manière, nous le faisons chaque année. Nous nous réunissons. Nous avons aujourd'hui un groupe plus important que d'habitude. Nous avons des visiteurs qui viennent de différents endroits des États-Unis et je suis sûr que les frères qui sont en visite dans des congrégations ou qui participent à des congrégations dans le monde entier, qui ont peut-être même des services combinés dans certains endroits, votre congrégation est peut-être un peu plus grande. C'est très spécial. C'est un moment où nous pouvons nous concentrer sur le temps passé ensemble. Et Dieu veut que nous nous souvenions de ces choses et du but de ces jours. Nous ne nous réunissons pas sans raison. Nous nous réunissons parce que Dieu veut que nous apprenions quelque chose, que nous comprenions le but de ce jour et des jours de pain sans levain que nous venons de passer. Nous sommes déjà au dernier jour des pains sans levain. Maintenant, est-ce que quelqu'un, peut-être que le docteur Villioen posera la question au cours du service de l'après-midi, mais peut-être que je le devancerai. Quelqu'un a-t-il glissé? Je ne lève pas la main parce que je l'ai fait. D'accord. D'accord, il y a un peu de glissement. Ce n'est pas grave. Vous n'entrerez pas dans le royaume, mais à part cela, tout va bien. Profitez du reste de votre vie. Non, je plaisante. Je plaisante. Tant que ce n'était pas intentionnel, je vais manger. J'ai entendu des histoires intéressantes. Vous savez, quand vous êtes dans l'église de Dieu depuis un certain temps, vous parlez à des frères qui sont dans l'église depuis un certain temps. Inévitablement, vous allez déraper à un moment donné, et ce n'est pas parce que vous l'avez fait délibérément, mais de toute façon. Nous voici donc au jour des pains sans levain. Nous lisons le Lévitique 23. En ce dernier jour des pains sans levain, essayons de comprendre ce qu'est ce jour. Et vraiment, quels sont les jours que nous venons de vivre? De quoi s'agit-il? Le Lévitique 23 est l'endroit idéal pour commencer. Verset 4. Ce sont les fêtes de l'Éternel, de sainte convocation, ce qui signifie que nous nous réunissons, que ce sont de saintes réunions que Dieu nous a données chaque année. Verset 4. Deuxième partie. Que vous proclamerez en leur temps. Le 14e jour du premier mois, c'est la Pâque du Seigneur, et le 15e jour du même mois, c'est la fête des pains sans levain. Ainsi, à partir du 15e jour, après avoir célébré les symboles du Nouveau Testament, la Pâque du Nouveau Testament la nuit précédente, le 14, nous commençons à observer la nuit, et à partir de ce moment-là, c'est le début de la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours. Verset 7, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous n'y ferez aucune œuvre servile, mais vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu pendant 7 jours, et le 7e jour, qui est aujourd'hui le dernier jour des pains sans levain, est aussi une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, tout comme un sabbat, nous sommes ici, nous ne sommes pas censés garder, nous ne sommes pas censés travailler. Nous ne sommes pas censés faire quoi que ce soit en dehors de ce que Dieu a prévu pour que nous puissions rester concentrés. C'est là tout l'intérêt. Nous sommes ici, nous ne travaillons pas, nous nous rassemblons un lundi, du moins cette année, afin de concentrer notre attention sur ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Passons donc au chapitre 13 de l'Exode. Exode 13. Que signifient ces jours? Nous savons que le Lévitique 23 indique très clairement que nous sommes censés les observer, mais nous ne savons pas encore vraiment pourquoi. Nous retournons donc à l'Exode. Lisons l'Exode 13 et commençons par le verset 1. Pourquoi gardons-nous ces jours de pain sans levain? L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Sanctifie-moi tout premier-né qui sort du ventre des enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes. Il est à moi. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est à main forte que le Seigneur vous a fait sortir de ce lieu. On ne mangera point de pain levé. » Tout au long des 7 jours, c'est un type de Dieu qui fait sortir Israël d'Égypte et du péché. Ce jour-là, vous êtes sortis au mois d'Abib. Nous sommes dans le mois d'Abib. Lorsque le Seigneur vous fera entrer dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amorites, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à ses pères de vous donner, pays où coule le lait et le miel, vous célébrerez cette fête au cours de ce mois. Nous ne sommes pas censés oublier cela et les leçons qui découlent de cette expérience étonnante que nous voyons dans l'Antiquité de Moïse. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et c'est un commandement. Il ne s'agit pas de 7 jours pendant lesquels vous pourriez, ou voudriez, ou aimeriez peut-être un peu manger des pains sans levain, mais de 7 jours pendant lesquels vous mangerez des pains sans levain. Non. Vous en mangerez pendant 7 jours, et le 7e jour sera une fête de l'Éternel. Nous y voilà, le 7e jour, on mangera des pains sans levain pendant 7 jours, et l'on ne verra chez vous ni pain levé, ni levain dans tous vos quartiers. En ce jour-là, tu montreras à ton fils que ceci est accompli. Pourquoi? Pourquoi célébrons-nous ce jour? Pourquoi l'enseignons-nous? Qu'enseignons-nous à nos enfants? C'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour vous un signe sur votre main et un souvenir entre vos yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans votre bouche. Car c'est à main forte que l'Éternel vous a fait sortir d'Égypte. Dieu nous a fait sortir spirituellement d'Égypte, mais il veut que nous nous souvenions du type physique, de ce qui s'est passé dans l'Antiquité, à savoir qu'Israël est sorti d'Égypte et qu'il était censé rester sans levain. Sans levain. Premier chapitre des Corinthiens, chapitre 5, si vous vous y référez. Vous savez, il est intéressant de voir comment Dieu utilise la nourriture pour certains de ses jours saints. En fait, si vous y réfléchissez, tous ces jours saints impliquent de la nourriture dans une certaine mesure, qu'il s'agisse du festin de la fête des tabernacles, dont vous pouvez profiter. Dieu dit, « Tout ce que votre cœur voudra à la fête des tabernacles pendant 8 jours, se terminant par le dernier grand jour, tout ce que votre cœur voudra, la nourriture est impliquée. » Le jour de l'expiation qui précède est à l'opposé. C'est un jour où il n'y a pas de nourriture. Avant cela, c'est la fête des trompettes, un jour de fête à nouveau. Avant cela, c'est la Pentecôte, avec la gerbe et les 2 pains, à nouveau de la nourriture. Ce sont également des fêtes. Mais avant cela, il y a les jours des pains sans levain où Dieu dit que nous sommes censés modifier notre façon de manger, changer les choses que nous mangeons régulièrement, et nous concentrer sur la consommation de pain plat, de pain sans levain. Il est vraiment intéressant de voir comment Dieu a associé la nourriture à chaque jour saint. C'est juste un point secondaire. Cela permet de mieux comprendre pourquoi, dans Colossiens 2, 16, il est dit que personne ne vous juge sur le manger ou le boire, ou sur un jour saint, et ainsi de suite, parce que pour le monde, nous sommes considérés comme un peu étranges. Vous devez manger du pain plat pendant 7 jours. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne mangez pas aujourd'hui, le jour de l'expiation? Vous arrêtez tout simplement de manger? Attendez. Puis, à la fête des tabernacles, vous pouvez manger tout ce que vous voulez avec modération, bien sûr, mais si vous ne revenez pas de la fête avec un gros appétit, vous savez que vous avez un problème, d'accord? Vous avez poussé ce commandement trop loin. Vous avez poussé ce commandement trop loin. Quoi qu'il en soit, Dieu nous a donné ces jours et nous a dit que nous devions modifier nos habitudes alimentaires. En ces jours de pain sans levain, nous sommes censés manger du pain sans levain plutôt que du pain gonflé. Comprenons un peu mieux pourquoi. 1 Corinthiens 5, et nous lirons le verset 6. Reprenons au premier verset. On dit communément qu'il y a de l'impudicité parmi vous. Paul s'adresse aux Corinthiens. Et une fornication telle qu'on n'en parle pas tant chez les païens. Ils forniquent d'une manière que les gentils ne feraient même pas. C'est à peu près cela. Les gens en dehors de l'église de Dieu ne feraient même pas quelque chose comme cela. Que l'un ait la femme de son père. Commettre la fornication est une chose, mais commettre la fornication avec sa belle-mère, c'est très différent. Il dit, et vous êtes gonflé. D'accord. Gonflé. Il utilise ce terme. Et vous n'avez pas pris le deuil. Vous ne vous êtes pas aplati. On est gonflé, mais par le péché, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Il a été mis à l'écart. Car moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis cette action. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous serez réunis en mon esprit avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour livrer un tel individu à Satan. Cet homme a été exclu de l'Église, livré à Satan, au Dieu de ce monde, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il a été exclu de l'Église pour avoir forniqué, afin qu'il ait une chance de se repentir, de revenir, d'apprendre ses leçons et de vaincre. Dieu n'a pas rejeté cette personne. Paul n'a pas exclu cette personne juste parce qu'elle a forniqué, juste parce que cette personne. Tout le monde pêche, mais si votre péché atteint un niveau tel que vous devez être exclu de l'Église, ce n'est pas pour que vous disparaissiez à jamais. C'est pour que vous vous humiliez et que vous vous abaissiez. Car cette personne était clairement, comme il est dit au verset 2, enflée. Ils avaient besoin de s'aplatir et ils n'apprenaient pas la leçon par eux-mêmes, alors ils devaient être mis à l'écart dans le but de les aider à s'aplatir, à s'abaisser, mais ils n'étaient pas rejetés. Paul garde l'espoir que cette personne sera là au jour du Christ. C'est une chose étonnante à considérer. C'est pourquoi nous ne jugeons rien, frères. Verset 6. L'orgueil n'est pas bon. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si vous laissez entrer une petite chose, un petit morceau de levain, un levain spirituel, un péché ici ou là, il va s'installer et gonfler toute la personne. Il suffit d'un peu de levain pour que cela se produise. Il s'agit d'une leçon puissante tirée des jours de pain sans levain. Que dit Paul à cette personne et à nous tous aujourd'hui? Purifiez donc le vieux levain, afin de former une pâte nouvelle, comme si vous étiez sans levain. Car Christ lui-même, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Gardons donc. Pour revenir au Lévitique 23 et à l'Exode 13, célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Revenons donc à l'Exode 14. Voyons ce que devait faire l'ancien Israël à sa sortie d'Égypte. Et cela commence à mettre en place. Encore une fois, il s'agit d'une compréhension fondamentale. Nous sommes en train de passer en revue certaines des bases de ce qu'est le dernier jour des pains sans levain, les jours des pains sans levain en général, mais ici, nous allons entrer plus spécifiquement dans le dernier jour des pains sans levain alors que nous passons à la deuxième partie de ce message. Passez au chapitre 14 de l'Exode. Vous savez tous ce qui s'est passé, si vous vous reportez au chapitre 9, 8 et 7, les plaies d'Égypte se sont produites jusqu'à ce que le premier-né soit tué. Nous savons tous qu'au chapitre 11, au verset 5, le premier-né a été tué le premier jour des pains sans levain, la nuit de l'observation. C'est ainsi que commencèrent les jours des pains sans levain. Si nous passons au chapitre 14, nous avons déjà lu un peu du chapitre 13. Dieu a ordonné que nous observions ces 7 jours. Au verset 1 du chapitre 14, il est dit, « L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Dis aux enfants d'Israël de se détourner et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis d'eux. » Ces mots, je vous le dis, pourquoi n'y a-t-il pas que Chicago et Atlanta? D'accord. Non, cela doit être très difficile. D'accord, nous allons passer à outre. Car Pharaon sauvera les enfants d'Israël. Ils sont empêtrés dans le pays. Le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon. Nous allons donc aller jusqu'aux boutiques que nous avons vues, il y a quelques chapitres, qu'il a été question de la nuit à observer. Le premier-né est mort. D'accord. C'est la nuit qui doit être observée de près. Vous pouvez même regarder rapidement en arrière si vous le souhaitez, au chapitre 12 et au verset 34. Il est dit, « Le peuple prit sa pâte avant qu'elle ne soit levée. Les ingrédients à pétrir étaient liés dans leurs vêtements et sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse leur avait dit, et ils empruntèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel accorda au peuple la faveur des Égyptiens, et ainsi de suite. C'est aussi la nuit qu'il faut observer de près. Revenons au chapitre 14. Pharaon dira aux enfants d'Israël qu'ils sont empêtrés dans le pays. Nous avons donc traversé les 7 jours des pains sans levain. Nous sommes maintenant au dernier jour des pains sans levain, et c'est là que la scène se déroule. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont empêtrés dans le pays. Ils sont pris dans leur voyage, et le désert les enferme. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, pour qu'il les poursuive. Je serai honoré par Pharaon et par toutes ses armées, afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel. Et ils firent ainsi. Le roi d'Égypte fut informé de la fuite du peuple. Le cœur de Pharaon et de ses serviteurs se retourna contre le peuple. Ils voulaient retourner après Israël. Bien qu'ayant vu tous ces fléaux, Dieu a encore retourné le cœur de Pharaon. Dieu a encore retourné le cœur de Pharaon. Verset 6, il prépara son char et prit son peuple avec lui, 600 chars choisis. Imaginez cette image. Tous les chars de l'Égypte, et les chefs de chacun d'eux. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les enfants d'Israël, et qui marcha à grands pas. Maintenant, le verset 10. Lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens marchaient à leur poursuite. Et ils eurent peur. C'est le dernier jour des pains sans levain. Pharaon arrive maintenant, Il est venu avec ses armées pour se débarrasser de la nation d'Israël avec tout ce qu'il a, toutes les forces qu'il possède. Ils dirent à Moïse, parce qu'il n'y a pas de sépulture en Égypte, tu nous emmenés mourir dans le désert. Ainsi, Israël, avant même d'avoir traversé la mer Rouge, a commencé à murmurer. Notons-le. Ils ont commencé à dire, eh bien, pourquoi ne pas revenir en arrière et retourner en esclavage? C'était mieux là-bas que dans le désert. Verset 12. N'est-ce pas là la parole que nous vous avons dite en Égypte, en disant, laissez-nous tranquilles? Ne l'avons-nous pas déjà dit, Moïse? Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous rester ici. Laissez-nous, afin que nous servions les Égyptiens, car il aurait mieux valu pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Telle est leur attitude. Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Arrêtez-vous et voyez le salut de l'Éternel, qu'il vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous vous tairez. Nous passons au verset 19. Et voici ce qu'il en est. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, se retira et passa derrière eux. La colonne et la nuée s'éloignèrent de leur face et se tinrent devant eux. Elle descendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, cette énorme nuée. C'était une nuée et des ténèbres pour les Égyptiens. Elle éclairait Israël pendant la nuit, de sorte que l'un n'approchait pas de l'autre pendant toute la nuit. Peut-être y avez-vous déjà réfléchi, mais au verset 20, il est dit qu'il s'agit d'un événement nocturne. Pendant toute la nuit, une ombre sombre est projetée sur les Égyptiens et une lumière éclatante est projetée sur Israël. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer par un grand vent d'Orient pendant toute cette nuit-là. Il mit la mer à sec et les eaux se partagèrent. Essayez de vous mettre dans cette situation. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que nous commémorons en ce dernier jour des pains sans levain, le dernier grand acte de Dieu qui a délivré son peuple, Israël, par cette séparation miraculeuse de la mer Rouge. Israël a traversé la mer à pied sec, il est dit, les enfants d'Israël passèrent au milieu de la mer à pied sec, verset 22. Les eaux étaient pour eux une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et se mirent à leur poursuite au milieu de la mer, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. À la veille du matin, l'Éternel passa en revue l'armée des Égyptiens. Nous parlons donc ici de la nuit, à la veille du matin, le Seigneur a regardé sous l'armée des Égyptiens, à travers la colonne de feu et la nuée, et il a troublé l'armée des Égyptiens. Il sortit de la nuée, les effraya et fit tomber les roues de leurs chars qu'ils poussaient lourdement, de sorte que les Égyptiens dirent, « Fuyons la face d'Israël, fuyons l'Éternel. » Car le Seigneur combat pour eux contre les Égyptiens. Ils démontent leurs chars. L'Éternel dit à Moïse, verset 26, « Étends ta main sur la mer, afin que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer reprit sa force du matin. Les Égyptiens s'enfuirent devant elle, et l'Éternel battit les Égyptiens au milieu de la mer. Frères et sœurs, c'est un miracle étonnant que Dieu a accompli en utilisant Moïse pour lever les mains et séparer la mer. Mais était-ce suffisant pour Israël? Si vous lisez quelques versets plus loin dans le chapitre suivant, au verset 21, Myriam répondra au verset 22, « Moïse fit sortir Israël de la mer Rouge, et ils s'en allèrent dans le désert. » Moïse fit sortir Israël de la mer Rouge et ils allèrent dans le désert de Shur. Chapitre 15. 22. Ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Il ne s'agit donc que de 3 jours. Après avoir vécu l'un des moments historiques les plus mémorables de l'histoire de l'humanité, 3 jours plus tard, au verset 23, ils arrivèrent à Mara, et ils ne purent boire de l'eau de Mara, car elle était amère. C'est pourquoi on l'appelait Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » 3 jours. Ne pensez-vous pas que Dieu peut prendre soin de vous si vous avez vu les eaux se séparer et que vous avez traversé la mer Rouge, puis qu'elles ont englouti toute l'armée égyptienne? Mais non. Descendons au chapitre 16, au premier verset. Ils partirent d'Élim, et toute l'assemblée des enfants d'Israël entra dans le désert du péché, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur départ du pays d'Égypte. Nous sommes donc au 15e jour, 1 mois plus tard, 3 semaines plus tard, vraiment 3 semaines plus tard, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, que s'est-il passé? Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les enfants d'Israël leur dirent, plus à Dieu que nous fussions morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, lorsque nous étions assis près des marmites et que nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Une fois de plus, ils ont complètement perdu de vue ce que Dieu était en train de faire. Ils ont complètement perdu de vue ces miracles massifs qui ont culminé avec l'événement de la mer Rouge, le dernier jour des pains sans levain. Et frères, vous continuez à lire, le chapitre 17, versets 1 à 3, parle d'Israël qui murmure, encore et encore. Vous pouvez les lire seuls, mais vous comprenez à quel point, entre le moment où le premier-né a été tué et celui où Israël a traversé la mer Rouge, ils ont vu ces grands miracles, mais les ont ensuite si vite oubliés. Il y a là une leçon pour nous, et nous allons parcourir brièvement le récit de Jéricho dans 1 minute, très brièvement. Nous n'allons pas nous étendre sur le sujet. Nous le comprenons tous, mais il est bon de comprendre que le principe de Jéricho, nous y reviendrons dans 1 minute. Mais pensez à ceci, pensez à ce que ces 7 jours représentaient pour Israël. C'étaient les jours des pains sans levain, qui culminaient avec le dernier jour des pains sans levain, comme nous le faisons maintenant. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils voyaient que la terre promise était devant eux. Mes frères, tout comme nous sortons nous-mêmes des 7 jours de pain sans levain, nous n'avons pas la terre promise immédiatement devant nous, n'est-ce pas? La terre promise n'est pas ici même. Ce n'est pas comme si nous nous réveillons soudainement dans le royaume juste parce que les jours des pains sans levain sont terminés. Mais Israël avait encore 40 ans à passer dans le désert. Pensez-y. Et ils ont commencé à montrer un modèle de retour aux vieilles habitudes, si vous voulez. Ils reprirent très vite leurs vieilles habitudes, ils murmuraient, se plaignaient et tout le reste. Le même principe s'applique aux 7 jours à Jéricho. Regardez le chapitre 6 de Josué. La même chose s'est produite à Jéricho. 7 jours de pain sans levain. Israël a fait le tour des murs de Jéricho. Josué chapitre 6, nous reprendrons au verset 12. Josué se leva de bon matin, et le prêtre fit monter l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs portant 7 trompettes à cornes de bélier devant l'arche de l'Éternel marchaient continuellement et sonnaient des trompettes, et les hommes armés marchaient devant eux. Les hommes armés les précédaient. Mais le dernier venait après l'arche de l'Éternel, le sacrificateur qui marchait et sonnait des trompettes. C'était le premier jour. Le 2e jour, ils firent une fois le tour de la ville et retournèrent au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour. Nous y sommes, le 7e jour. Ils se levèrent de bonne heure, à l'aube du jour, et ils firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. Ce jour-là seulement, ils firent 7 fois le tour de la ville. Chaque jour, ils font donc le tour de la ville pendant 7 jours consécutifs, mais le septième jour, ils la contournent 7 fois. À la septième fois, lorsque les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué dit au peuple: Poussez des cris, car le Seigneur vous a donné la ville, et la ville sera maudite, elle et tous ceux qui s'y trouvent, pour le Seigneur. Seule Rahab la prostituée vivra, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers envoyés. Parmi ces instructions, le verset 18 dit: Et vous, de quelque manière que ce soit, tenez-vous à l'écart de la chose maudite, de peur que vous ne vous rendiez maudit en prenant de la chose maudite, et que vous ne rendiez le camp d'Israël maudit et troublé. Une fois que Dieu a fini de démolir ses murs et que vous êtes autorisés à entrer, et à faire tout ce que Dieu vous ordonne de faire pour piller la ville, ne touchez à rien. Ne prenez rien. C'est maudit. N'y touchez pas. Mais tout l'argent de l'or. Verset 19. Et les objets d'airain et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Et au verset 20, le peuple poussa des cris lorsque les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette et qu'il poussa un grand cri, la muraille s'écroula, et le peuple monta dans la ville, chacun droit devant soi, et il s'empara de la ville. Encore une fois, tout comme nous avons vu Israël sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, les miracles étonnants qui se sont produits à ce moment-là, puis retourner immédiatement au péché, que voyons-nous ici à Jéricho? Ces puissants miracles, Dieu détruit miraculeusement les murs de cette grande ville. Ensuite, au chapitre 7, verset 1, il est dit: Les enfants d'Israël se rendirent coupables de la chose maudite. Ils n'ont pas pu s'en empêcher, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu s'en empêcher. Ils ont dû désobéir à Dieu sur le champ. Et il y a cet homme nommé Achan, fils de Camaï, de Zabdi, et ainsi de suite, mais cet homme nommé Achan a volé ses biens. Le chapitre se poursuit, Josué est mécontent, Dieu est mécontent, il est découragé que les Israélites aient fait cela, et vous arrivez au verset 16. Josué se leva de bon matin et emmena Israël par tribu, et la tribu de Juda fut prise. Ils amenèrent la famille de Juda et prirent la famille de ses autres familles, et il amena sa famille. Verset 18, homme par homme, et Achan, fils de Camaï, fils de Zebdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut pris. Josué dit à Achan: Mon fils, glorifie le Dieu d'Israël, confesse-le, et dis-moi ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Achan répondit à Josué: J'ai péché contre l'Éternel d'Israël, et c'est ainsi que j'ai agi. J'ai vu, parmi les dépouilles du beau vêtement de Babylone, 200 sicles d'argent et un lingot d'or pesant 50 sicles. Je les ai convoités, je les ai pris, et voici, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, ainsi que l'argent qui est sous ma tente. Josué envoya des messagers, qui coururent à la tente. Et voici, le vêtement était caché dans la tente, et l'argent sous le vêtement. Ils les prirent au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué, et tout Israël avec lui, prit Achan, fils de Zérak, l'argent, le vêtement et la pièce d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les conduisirent dans la vallée d'Achor. Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi avez-vous pris la chose maudite? L'Éternel vous troublera aujourd'hui. Tout Israël le lapida et le brûla au feu, et après l'avoir lapidé, ainsi que les enfants. Et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres jusqu'à ce jour, comme une grande leçon. Israël a commencé à murmurer lorsqu'il est sorti d'Égypte, après avoir vu des miracles massifs. Et Israël est retombé dans le péché, même à Jéricho, avec Achan. Au bout de 7 jours, certains Israéliens n'ont toujours pas compris la leçon, et ils sont retombés dans le péché. Et c'est là le point, mes frères, c'est qu'Israël a pris l'habitude de pécher, de tomber dans le péché. Les habitudes sont un sujet dont Dieu a parlé tout au long de la Bible. Vous ne pensez peut-être pas qu'il s'agit d'habitudes, mais c'est pourtant le cas. Considérez ceci, le psaume 55. Si vous pouvez vous tourner vers là. Psaume 55 et verset 17. Nous pourrions considérer ce verset comme une habitude du roi David. Il est dit ici, au verset 16, « Moi, j'invoquerai Dieu, et l'Éternel me sauvera. » Verset 17, « Soir, matin et midi, je prierai et je crierai, et il entendra ma voix. » David a pris l'habitude de prier tout au long de la journée. On peut y penser pour toutes sortes de choses dans notre vie. Nous avons l'habitude, nous devons prendre l'habitude d'étudier la Bible, comme il est dit dans 2 Timothée 2, 15, « Étudiez pour vous faire approuver. » Eh bien, pour étudier afin de se montrer approuvé, nous devons prendre l'habitude d'étudier la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas simplement le faire chaque fois que cela nous vient à l'esprit, « Oh, oui, c'est vrai. Il y a 17 jours, j'ai étudié la Bible, je devrais probablement le faire à nouveau. » Non, il faut en faire une habitude. Nous devons prendre l'habitude d'étudier la Bible. Tite 1 et le verset 8 disent que nous devrions prendre l'habitude d'être hospitaliers. L'hospitalité. Recevons-nous des gens? Recevons-nous des gens? Sommes-nous amicaux avec eux? La Bible est pleine d'habitudes. Le verset 6 du chapitre 22 des Proverbes dit que nous devrions prendre l'habitude de bien éduquer nos enfants. Tout ce que nous faisons dans la vie, une grande partie de ce que nous faisons dans la vie se résume à des habitudes. Les bonnes et les mauvaises. Car la Bible parle aussi beaucoup des mauvaises habitudes. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 14, que si vous dormez trop longtemps dans votre lit, comme un gond de porte qui tourne, vous continuez à vous retourner dans votre lit, à vous retourner dans votre lit, à roupiller, à roupiller, à roupiller, et Dieu dit que c'est une habitude qui s'appelle la paresse. Il nomme cette habitude. Nous pouvons penser à. D'une certaine manière, nous pouvons considérer ces habitudes comme des traits de caractère, mais en réalité, si l'on y réfléchit bien, il ne s'agit que d'habitudes. J'ai l'habitude de me coucher trop tard le matin. En réalité, vous avez l'habitude d'être paresseux, c'est ce qui est écrit. Dieu dit. Le verset 13 de la première lettre de Timothée 5 dit que si vous êtes veuve, cela s'applique à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'être veuve pour que cela soit vrai, vous devez faire attention à ne pas être une fouineuse ou une commère. Les gens peuvent prendre l'habitude d'être des fouineurs et des commères, de se mêler des affaires des autres, de vouloir connaître des informations privilégiées sur d'autres personnes et de les partager ensuite avec d'autres personnes. Cela peut devenir une habitude, une mauvaise habitude. Le verset 5 de l'Épître aux Éphésiens dit que nous devons prendre l'habitude de la propreté, ce qui signifie que nous pouvons aussi avoir l'habitude de la malpropreté. Presque partout dans la Bible, il est question d'habitudes, bonnes ou mauvaises. Passons maintenant au chapitre 2 de Tite. Tite chapitre 2. Tite 2 et le verset 6. Cela s'adresse aux jeunes hommes, mais je vous le répète, cela ne s'applique pas uniquement aux jeunes hommes. Mais curieusement, les jeunes hommes, qu'ils soient physiquement jeunes, mais je dirais que ce n'est pas seulement des jeunes hommes physiques, nous parlons même de jeunes hommes, de jeunes hommes et de jeunes femmes dans la foi, Ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement jeunes physiquement, mais jeunes spirituellement. Jeunes gens et femmes, exhortez-les aussi à être sobres en tout, en toutes choses, en donnant l'exemple des bonnes œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dit de développer des modèles ou des habitudes de bonnes œuvres. Prenez l'habitude d'avoir de bonnes œuvres en toutes choses, dans la doctrine, en montrant de l'intégrité, de la gravité, de la sincérité, des paroles saines qui ne peuvent être condamnées. Prendre l'habitude d'avoir une parole saine. Prenez l'habitude de faire preuve d'irréprochabilité dans la doctrine, et ainsi de suite. Dieu dit spécifiquement aux jeunes, on pourrait dire dans la foi. Il n'est pas nécessaire d'être jeune pour que cela s'applique physiquement, il veut que nous prenions de bonnes habitudes. Comment pouvons-nous prendre de bonnes habitudes après les jours des pains sans levain? Nous venons de passer 7 jours à nous désenflammer, à nous aplatir, à nous entraîner, à éliminer le péché de notre vie. Avant les jours des pains sans levain, nous avons passé le temps de l'examen de conscience. Une période pendant laquelle nous nous sommes vraiment concentrés sur ce que nous devions changer. Nous nous sommes profondément interrogés sur nous-mêmes. Nous nous sommes demandé, comment pouvons-nous? Dans quel domaine devons-nous progresser? Au cours de ces 7 derniers jours, maintenant le 7e jour, au cours de ces 6 derniers jours et demi, nous avons cherché à éliminer de nos vies ces choses que nous avons vues à propos de nous-mêmes. En fait, ce que nous avons commencé à faire, mes frères, c'est de commencer à construire des habitudes de bonnes œuvres pendant ces 7 jours. C'est le but de ces jours, mais ils sont sur le point de se terminer. Comme un bon catholique dirait, les jours de carême sont terminés. Maintenant, je peux revenir à ce que j'ai jeûné pendant 40 jours, parce que pendant le carême, ils suppriment quelque chose de leur vie. Ils arrêtent peut-être de jurer ou de manger des bonbons ou quelque chose comme cela pendant ces 40 jours, mais une fois les 40 jours terminés, ils y retournent. Voulons-nous être comme les catholiques, mes frères? Non, bien sûr. La meilleure façon de le dire, c'est de se demander si nous voulons vraiment être comme l'ancien Israël. L'ancien Israël a vu des miracles massifs pendant 7 jours d'affilée. Il sortait physiquement d'Égypte, traversait la mer Rouge. Puis, juste parce qu'ils étaient maintenant sortis, oh, c'est bon de retourner et de recommencer à murmurer, à se plaindre à Moïse, à lui dire tous ses problèmes, pourquoi c'est sa faute s'il nous a fait sortir d'ici. Non, 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 non. Ils sont allés sur pendant 40 ans dans le désert, tout comme nous, mes frères. Nous sortons de 7 jours pendant lesquels nous avons commencé à prendre de bonnes habitudes. Nous ne pouvons pas tomber dans le même piège qu'Israël. Nous devons continuer. Maintenant que nous entrons, on pourrait dire dans le reste de l'année, quel que soit le temps qui nous sépare de la venue du royaume de Dieu, nous entrons dans le reste de l'année, et nous essayons de garder et de maintenir les habitudes que nous avons développées au cours de la semaine dernière. Nous devons apprendre les leçons d'Israël. Alors, mes frères, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, ou exactement. Je n'ai jamais structuré un message de la sorte, mais je vais utiliser un livre, les 3 points de résumé d'un livre intitulé Atomic Habits de Jacques Clear. Vous verrez que vous vous dites, attendez un peu. Qu'est-ce que vous apportez dans ce livre laïque sur les habitudes? Eh bien, vous comprendrez que si nous essayons de créer des habitudes, si vous consultez à peu près n'importe quel livre, vous verrez beaucoup de choses identiques à celles dont nous parlons aujourd'hui. Comment construire correctement des habitudes? Mais peu importe qu'il s'agisse de ce livre ou de n'importe quel autre livre que vous trouverez sur la façon de créer des habitudes. Celui-ci ne contient que 3 étapes très simples et faciles à suivre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas des étapes séculières. Ce qui compte, c'est que Dieu prouve ces étapes dans la Bible. Je vais vous montrer aujourd'hui que ces étapes sont bibliques. Il ne s'agit pas d'un livre profane que nous parcourons. Oui, nous utilisons ce livre comme structure, mais ce sont les principes de Dieu qui sont exposés. Voyons donc la première leçon sur la façon de continuer à prendre de bonnes habitudes maintenant que ces jours de pain sans levain touchent à leur fin. La première leçon est la suivante: prendre des habitudes fondées sur l'identité. Permettez-moi de lire le résumé de ce qu'il dit et j'en aurai fini avec le livre, du moins pour cette section. Ensuite, j'aborderai toutes sortes d'autres sujets concernant les Écritures. Permettez-moi de vous lire ce qu'il entend par la création d'habitudes basées sur l'identité. Vous pouvez écouter attentivement. La clé pour créer des habitudes durables est de se concentrer sur la création d'une nouvelle identité. Tout d'abord, vos comportements actuels ne sont que le reflet de votre identité actuelle. Les choses que vous faites dans votre vie sont le reflet de la personne que vous définissez, de l'identité que vous vous donnez. Ce que vous faites aujourd'hui est le reflet du type de personne que vous croyez être, consciemment ou inconsciemment. Si nous voulons changer notre comportement, si nous voulons changer notre comportement pour de bon, vous devez commencer à croire de nouvelles choses à propos de vous-même. Vous devez créer des habitudes fondées sur l'identité. Changer vos croyances n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Il y a deux étapes. Décidez du type de personne que vous voulez être et prouvez-le à vous-même par de petites victoires. Votre identité émerge de vos habitudes, et chaque action est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Cela peut sembler un peu flou, psychologique et difficile à comprendre. Voici ce que cela signifie vraiment. Vous êtes ce que vous êtes en ce moment, mais nous sommes tous passés par là, ou peut-être que certains d'entre nous ne sont pas encore passés par là, mais si vous avez suivi des conseils de baptême, combien d'entre vous se souviennent des quatre vous? Les quatre vous sont simples. Il y a le vous que vous connaissez, et le vous que les autres connaissent. Vous avez tous une perception de moi différente de celle que j'ai de moi-même. Ensuite, il y a le vous que Dieu voit. Dieu nous voit différemment de la façon dont nous nous voyons nous-mêmes ou dont les autres nous voient, et puis il y a le quatrième vous, le vous que vous voulez devenir avec l'aide de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit de déterminer qui vous voulez devenir. Voici une brève description. Il s'agit de se fixer des objectifs. Il ne s'agit pas d'un charabia sur la construction d'habitudes basées sur l'identité. La définition d'un objectif est le point et votre objectif, voici votre objectif, est de devenir le meilleur vous possible. La personne que Dieu veut que vous deveniez. C'est notre objectif. Silence. Nous pouvons dire les lignes directrices pour nouvelle identité. Disons que notre nouvelle identité est le quatrième vous. C'est la personne que Dieu veut que nous devenions. Nous n'avons pas encore cette identité, mais nous nous efforçons de l'atteindre. Nous nous efforçons d'être la meilleure personne possible. Les lignes directrices pour créer cette nouvelle identité sont toutes exposées dans la Bible. Et si l'on y réfléchit bien, ce premier point est déjà bien avancé. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir trop longtemps parce que nous l'avons fait lors de l'examen de conscience. Arrêtez-vous et réfléchissez. Avant la Pâque, nous nous sommes tous assis, nous avons examiné notre vie et nous nous sommes comparés à la parole de Dieu. Nous nous sommes demandé: comment est-ce que je me situe et où est-ce que je veux grandir dans mon caractère pour devenir ce quatrième toi? La personne que Dieu veut que je sois avec son aide. Nous nous sommes mesurés à la personne que Dieu veut que nous devenions. Nous avons donc déjà fait ce premier point. En fait, La Bible nous l'a déjà expliqué. Nous avons tous des listes de domaines que nous voulons améliorer pour construire cette nouvelle identité. Il n'y a donc aucune raison de passer plus de temps sur ce premier point. Nous savons tous qui nous voulons devenir. Peut-être luttons-nous contre la convoitise. Si je sais que je lutte contre la convoitise, je sais déjà que j'ai traversé les jours des pains sans levain et que j'ai déjà commencé à travailler sur la convoitise. J'ai peut-être lutté contre la convoitise, la colère ou la haine. Quel que soit le problème auquel nous sommes confrontés personnellement, nous avons déjà identifié ces domaines, mais nous ne pouvons pas les oublier. C'est la clé. C'est la clé. Nous ne pouvons pas oublier où nous devons aller. Maintenant, voici le deuxième point. Donc, premier point, premier point. Le deuxième point sera un peu plus long. Ce livre dit qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs. Deuxièmement, maintenant que vous connaissez vos objectifs, oubliez-les, dit-il, et concentrez-vous plutôt sur le système qui vous permettra d'atteindre ces objectifs. D'accord? Voici ce qu'il dit, les objectifs concernent les résultats que vous voulez atteindre, mais les systèmes, c'est-à-dire le processus que vous suivez pour atteindre l'objectif, concerne les processus qui mènent à ces résultats. Ainsi, si vous avez du mal à changer vos habitudes, le problème ne vient pas nécessairement de vous, mais du système. Vous ne savez pas comment atteindre cet objectif correctement. Nous ne savons pas comment atteindre correctement cet objectif. L'objectif peut être d'arrêter de convoiter. C'est un objectif ambitieux. Comment atteindre cet objectif? Comment l'atteindre? Les mauvaises habitudes se répètent sans cesse, non pas parce qu'on ne veut pas changer, mais parce qu'on n'a pas le bon système. Nous continuons à prendre de mauvaises habitudes parce que nous n'avons pas la bonne structure pour atteindre nos objectifs. En fin de compte, vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Ce livre vous aide à y parvenir. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment faire pour que cela devienne une réalité? Permettez-moi de vous montrer la définition du mot « habitude ». Qu'est-ce qu'une habitude? C'est une réaction automatique à une situation spécifique. Nous pouvons réagir automatiquement à certaines choses quand quelque chose, quand nous sommes dans une certaine circonstance. Permettez-moi de vous expliquer ceci. Disons que j'ai une habitude. Il s'agit d'une habitude physique. Disons que j'ai pris l'habitude de prendre un Starbucks sur le chemin du travail. Si je passe devant un Starbucks tous les jours en me rendant au travail, j'ai pris l'habitude de m'arrêter pour prendre un café Starbucks. Mais que se passe-t-il si je veux arrêter? Si je veux arrêter cette habitude, le fait de voir le Starbucks est, en fait, un déclencheur ou un indice pour commencer à aller régulièrement dans ce Starbucks. Donc, si vous voulez arrêter l'habitude, la meilleure façon d'arrêter les habitudes, mes frères, et nous allons voir comment cela fonctionne spirituellement aussi, parce que physiquement parlant, c'est un concept facile à comprendre. Le meilleur moyen d'arrêter de prendre l'habitude d'aller chez Starbucks est de changer d'itinéraire pour aller au travail. Prenez un autre chemin pour vous rendre au travail. Ce sera peut-être plus long, mais cela vous aidera à mettre fin à cette habitude. Beaucoup d'entre nous ont de bonnes intentions. Nous pouvons, dans notre esprit, nous dire « J'aimerais vraiment arrêter cette habitude ». Mais cette volonté en elle-même, en général, ne suffit pas. Cela peut aider un peu. Peut-être que je veux aller à la gym plus souvent, peut-être que je veux faire plus d'exercices, mais cette volonté n'est généralement pas suffisante. C'est la raison pour laquelle les résolutions du Nouvel An ne fonctionnent généralement pas. Ce qui se passe, c'est que les gens vont à la salle de sport, prennent un abonnement et s'y rendent pendant quelques semaines. Et comme ils n'ont rien changé à leur vie, ils perdent très vite l'habitude. La meilleure façon de créer et de développer des habitudes est donc de changer quelque chose de physique dans votre vie qui déclenche cette habitude. Par exemple, le déclencheur du Starbucks est le fait de passer devant le Starbucks. Si vous ne voulez plus aller au Starbucks, changez cette habitude en allant ailleurs. Des études ont montré, je le répète, que si vous voulez changer une habitude, cela a moins à voir avec la volonté qu'avec le changement des petits indices ou des déclencheurs qui conduisent à cette habitude. Encore une fois, pensez à vous rendre au travail en voiture au Starbucks. C'est un principe de piété. Passons au psaume 101. Psaume 101. Psaume 101 et verset 3. Le premier verset dit: Je chanterai pour vous la miséricorde et le jugement, Seigneur, je chanterai, je me conduirai avec sagesse et perfection. Quand viendrez-vous à moi? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. Je ne mettrai devant mes yeux aucune chose mauvaise. Je hais l'œuvre de ceux qui se détournent, et elle ne s'attachera pas à moi. Le troisième verset est la clé. La première partie, je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux. Imaginons donc que nous soyons aux prises avec la luxure. J'ai fait un sermon sur la luxure il y a quelque temps. Si nous voulons mettre fin à cette mauvaise habitude de convoitise, nous devons d'abord être en mesure de savoir ce qui cause la convoitise. La plupart d'entre nous, si nous luttons contre la luxure, ne le font pas dans cette salle. Nous ne sommes pas assis là en train de nous dire « Oh, je suis tellement lascif en ce moment ». On ne le penserait pas parce qu'il n'y a rien dans cette pièce qui déclenche cette réaction, cette émotion, cette réaction négative. Souvent, ce qui se passe avec toutes sortes de péchés auxquels nous sommes confrontés, c'est que quelque chose les déclenche. Si vous êtes au travail et que vous avez un collègue avec qui vous travaillez, chaque fois que vous interagissez avec cette personne, cela vous met en colère, vous contrarie. Cette personne est en soi un déclencheur ou un indice qui vous pousse à combattre la colère. D'accord? Donc, si nous voulons prendre l'habitude de ne plus être lascifs, si nous avons ce noble objectif de cesser d'être lascifs, c'est merveilleux de voir l'objectif final. C'est merveilleux de savoir où nous voulons arriver, mais si nous ne pensons qu'à cela, arrêtez de convoiter, nous n'y arriverons pas, mes frères. Nous devons nous pencher sur les petits points qui se trouvent en amont. Nous devons comprendre ce qui nous pousse à convoiter, ce qui conduit à ce sentiment de convoitise dans notre esprit ou dans notre cœur. Si nous pouvons trouver cela, alors nous avançons, et vous pouvez alors commencer à dire, « Comment puis-je retirer cela de ma vie afin d'éliminer la tentation à la racine ?» Je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire de mes lunettes à la salle de sport. J'ai enlevé mes lunettes à la salle de sport parce que je ne voyais pas très loin. Physiquement, je faisais cela pour ne pas convoiter les autres personnes présentes à la salle de sport. Vous savez, quand les gens vont à la salle de sport, ils ne portent pas beaucoup de vêtements. C'est comme cela. Il y a donc beaucoup de tentations. À l'université, j'ai enlevé mes lunettes pour ne pas les voir, pour pouvoir mettre une barrière physique, et cela m'aidait. Maintenant, si nous enlevons nos lunettes, proverbialement parlant, ou disons que nous sommes au travail et que nous avons un problème avec un collègue qui nous met vraiment en colère par les choses qu'il dit ou qu'elle dit, et peut-être que c'est méchant ou quoi que ce soit, vous savez que cette personne est le problème. Mais il se peut que vous ne puissiez pas éviter cette personne tout le temps. Comment changer quelque chose en vous? Que pouvez-vous faire pour vous changer? Peut-être que vous vous dites que cette personne est peut-être en train de passer une très mauvaise journée ou de se débattre avec quelque chose, et dès que vous la voyez, que vous l'anticipez et que vous vous dites que cette personne est peut-être en train de traverser quelque chose, cela vous mettra peut-être à l'aise et vous permettra de mieux gérer la situation. Frères et sœurs, il y a un nombre infini d'exemples que je pourrais citer, mais ce n'est pas pour aider à illustrer ce point, mais le point essentiel est que Dieu dit dans sa parole, je ne mettrai rien, aucune chose mauvaise devant mes yeux. Pour mettre fin à un problème spirituel ou pour prendre l'habitude d'éradiquer la luxure ou tout autre problème spirituel dans votre vie, il y a des choses physiques que vous pouvez trouver, que vous pouvez changer et manipuler afin de commencer à répondre à cette préoccupation. La convoitise, c'est la même chose. Comment éviter? Vous êtes peut-être devenu cupide. Vous avez appris que j'ai passé trop de temps sur Facebook, Marketplace ou d'autres choses, et j'aime vraiment, et vous avez découvert que vous avez fini par dépenser trop d'argent que vous n'aviez pas besoin de dépenser simplement parce que vous naviguiez trop sur Facebook, Marketplace. Comment pouvons-nous remédier à cela? Si nous nous rendons compte que j'ai un petit problème de convoitise, comment puis-je y remédier? Je sais que je vais sur Facebook Marketplace 10 fois par jour et que je n'arrête pas de vérifier ces choses, et de regarder par ici, et peut-être que je devrais simplement arrêter jusqu'à ce que je sois absolument sûr d'avoir besoin de quelque chose, puis je le vérifierai, plutôt que de le vérifier systématiquement tout le temps. Il y a des choses, il y a des moyens, mes frères, et c'est là que vous devez prendre le relais. Je vous donne le bâton maintenant. Vous devez prendre le bâton et trouver ces déclencheurs physiques dans votre vie qui mènent à la tentation afin que vous puissiez y répondre. C'est donc, en fait, le deuxième point. Une fois que vous avez trouvé le premier point, une fois que vous vous êtes fixé l'objectif de ce que vous voulez être, je veux éradiquer la convoitise. Je veux éradiquer la colère de ma vie, alors arrêtez. Le deuxième point est de cesser de penser à ces grands objectifs qui sont difficiles à atteindre, et de commencer à penser aux signaux physiques que vous pouvez changer dans votre vie et qui vous permettront de mettre fin à ces mauvaises habitudes. Voici maintenant le troisième point. Voici le troisième point. Les petites habitudes font une grande différence. Selon le livre, il est si facile de surestimer l'importance d'un moment décisif et de sous-estimer la valeur des petites améliorations quotidiennes. Par ailleurs, une amélioration de 1% n'est pas particulièrement perceptible. Si vous essayez de vous améliorer d'un seul pour cent chaque jour, ce n'est pas particulièrement visible. Parfois même, c'est totalement imperceptible, mais cela peut être beaucoup plus significatif, surtout à long terme. La différence qu'une minuscule amélioration peut faire au fil du temps est stupéfiante. Le degré de réussite ou d'échec actuel n'a donc aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si vos habitudes vous mettent sur la voie de la réussite. Efforcez-vous de vous améliorer d'un pour cent chaque jour. Nous pouvons maintenant l'apprécier en tant que chrétien. Passez au premier chapitre du psaume. Vous pouvez même sortir votre recueil de cantiques et passer à la première page, si vous le souhaitez. Psaume 1. Dieu veut que nous nous améliorions constamment, mais il ne dit pas. Il ne dit pas « Essayez de vous améliorer tout de suite et faites en sorte que cela arrive. Améliorez-vous au maximum dès maintenant, et d'ici la semaine prochaine, je veux que vous soyez un chrétien accompli. » Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dieu nous a donné toute notre vie pour vaincre, et il faut toute une vie pour vaincre. Lisons le premier verset. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des méchants, mais qui prend plaisir à la loi du Seigneur. Il se plaît dans la loi du Seigneur, et il médite jour et nuit dans sa loi. Verset 3. Il serait comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui donne son fruit, Sa feuille ne se flétrit pas en son temps, et tout ce qu'il fait prospère. Dieu nous compare à des arbres. Comment un arbre pousse-t-il? Examinons les mécanismes de la croissance d'un arbre. Lorsqu'il est planté pour la première fois, imaginez que vous plantez un chêne rouge ou quelque chose comme cela. Il est petit. Et peut-être que la première année, tout comme un nouveau chrétien, il grandira beaucoup en une seule année. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été appelé à quitter le monde ou à entrer dans la vérité de Dieu. Oh là là, je dois arrêter de garder le dimanche et je vais commencer à garder le sabbat, et je dois garder les jours saints, et je dois apprendre à donner la dîme correctement, et je dois arrêter de manger des viandes impures. Le jeune chrétien grandit beaucoup au début de sa vie. Et chaque année, on apprend de plus en plus, de plus en plus. Mais après quelques années, ne serait-ce que quelques années, quand on est l'Église de Dieu, il n'y a rien d'aussi important que de commencer à séparer le sabbat du dimanche. Vous l'avez déjà fait. Vous en avez déjà fait une partie de votre arbre, si vous voulez. Mais vous commencez à grandir par d'autres moyens, plus petits, plus spirituels, des choses qui sont peut-être beaucoup plus difficiles à faire grandir. Mais chaque année, nous sommes comme des arbres qui poussent et qui, en leur saison, produisent des fruits. Combien de fois avons-nous vu un chêne rouge de 15 mètres de haut s'élever soudainement et pousser de 15 mètres supplémentaires? Cela n'arrive jamais. C'est impossible. Cela ne se produit pas de cette manière. La façon dont les arbres poussent et la façon dont Dieu dit que nous devrions grandir sont comme des arbres, petit à petit, année après année, mais grandissant, grandissant constamment, devenant de plus en plus grands, produisant de plus en plus de fruits. Chaque année que nous grandissons, nous produisons de plus en plus de fruits. C'est le principe de cette troisième leçon, nous sommes censés prendre de petites habitudes, faire de petites différences dans nos vies. Si nous n'essayons pas de vaincre la convoitise d'un seul coup, ce que nous allons faire, la façon pratique d'aborder la convoitise, c'est d'avancer pas à pas, jour après jour, en grandissant comme un arbre. Deuxième Pierre, chapitre 3. Deuxième Pierre, chapitre 3. Deuxième Pierre, 3, 16. Ainsi que dans toutes ces épîtres, qui parlent de ces choses, dans lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre, que ceux qui ne sont pas instruits et qui sont instables s'appuient, comme ils le font aussi, sur les autres Écritures, pour leur propre destruction. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui avez connu ces choses auparavant, prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'air des méchants et de ne pas perdre votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le mot « croissance » signifie simplement « élargissement ». Ne vous rétractez pas, mais grandissez. Grandissez chaque année. Soyez prêts pour le long terme. Les chênes peuvent vivre 300 ans, mais ils ne font que grandir de plus en plus. Sommes-nous comme ces grands chênes? Dans le chapitre 2 de la première Pierre. Vous pouvez revenir en arrière d'une page. 1 Pierre, chapitre 2 et verset 2, reprenez-le au verset 1. Pierre est apôtre 2, excusez-moi, je lisais le premier chapitre. 1 Pierre, 2, 1. C'est pourquoi, renonçant à toute malice, à toute ruse, à toute hypocrisie, à toute envie, à toute parole malveillante, comme des enfants nouveau-nés, désirez l'œuvre sincère. Excusez-moi, le lait de la parole, afin que vous croissiez par elle. En tant que chrétiens, pensons-nous que lorsque nous nourrissons un bébé, nous lui donnons tout d'un coup un steak ou une cuisse de dinde géante ou quelque chose de ce genre? Vous ne pouvez pas nourrir un bébé avec quelque chose comme cela. Il faut commencer petit. Petit à petit, Le bébé commencera à apprendre qu'il peut manger une banane ou une carotte. Je peux manger ceci, cela ou l'autre chose, et éventuellement progresser vers les aliments les plus forts. C'est ainsi que nous devons nous voir, mes frères. Si nous voulons continuer, parce que nous avons déjà commencé, vous en êtes à 7 jours dans ce processus de construction d'habitude. Si nous voulons continuer à prendre de bonnes habitudes, nous devons penser en termes simples. Comme le dit ce livre, si vous pouviez trouver un moyen de vous améliorer d'1% chaque jour, cela signifierait que, quels que soient les domaines auxquels vous êtes confrontés dans votre vie, vous pourriez vous demander comment vous pourriez vous améliorer un tout petit peu aujourd'hui. Quoi que cela signifie, quels que soient les domaines auxquels vous êtes confrontés dans votre vie, comment puis-je m'améliorer un tout petit peu aujourd'hui? Peut-être que si, encore une fois, la convoitise, vous revenez à cela avec Facebook Marketplace, un exemple facile. Si nous luttons avec quelque chose comme cela, est-ce que nous le faisons? Parce que de temps en temps, vous allez avoir ces signaux. Si vous êtes sur votre téléphone pour une raison ou une autre, vous pouvez vous dire, puisque je suis sur mon téléphone, je ferais bien d'aller sur Facebook Marketplace. Nous devons nous arrêter. Bien, c'est le signal. C'est le déclencheur. C'est ce qui peut nous conduire à la convoitise. Nous devons le reconnaître. Une fois que nous l'avons reconnu, comment l'aborder? Peut-être que la façon dont nous le faisons aujourd'hui est de dire, si vous êtes tenté d'aller sur Facebook Marketplace, dites simplement, non, mettez-le dans votre poche. Mettez-le dans votre poche. Éteignez-le. Dites, limitez-vous. Ne pensez pas tout d'un coup que vous devez remuer ciel et terre pour arrêter. Les péchés spirituels, mes frères, ne sont pas faciles à surmonter. Encore une fois, il faut une vie entière pour surmonter toutes ces choses. Il y a des hauts et des bas. Parfois, nous luttons contre certaines choses et d'autres fois, nous luttons contre d'autres. Frères et sœurs, là où vous en êtes, il s'agit de trouver un moyen de grandir un peu, jour après jour. Il y a un vieux poème que je lisais dans un livre de vertu sur mon étagère à la maison et je l'ai vu. Il a été écrit en 1870 par Josiah Gilbert Holland. Il faut le prendre avec des pincettes. Il parle du paradis et ainsi de suite, comme atteindre le paradis et ainsi de suite. Mais remplacez le mot « ciel » par « royaume » et tout va bien. Le ciel ne s'atteint pas d'un seul coup. C'est vraiment fascinant et cela s'applique parfaitement à cette leçon. Le ciel ne s'atteint pas d'un seul coup. Nous construisons l'échelle par laquelle nous nous élevons. De l'humble terre aux cieux voûtés, nous montons jusqu'à son sommet, tour après tour. Lentement. J'estime que cette chose est grandement vraie, 1872. Il est écrit qu'une noble action, une seule noble action est un pas vers Dieu. Élever l'âme de la glèbe commune à un air plus pur et à une vue plus large. Il n'en faut pas beaucoup, mes frères. Si nous nous concentrons sur, peut-être que nous avons trouvé en nous-mêmes, cette dernière année, que je n'ai pas assez servi. Je veux servir davantage. Que pouvons-nous faire chaque jour? Quelles petites choses pouvons-nous faire chaque jour pour y parvenir? Nous réveillons-nous et nous demandons-nous, qui vais-je servir aujourd'hui? C'est une petite chose. Peut-être que quelqu'un a besoin d'un verre d'eau, quelqu'un a besoin d'aide pour quelque chose. Que pouvons-nous faire pour nous améliorer d'1% chaque jour? Frères et sœurs, lorsque vous vous améliorez d'1% chaque jour, ce pourcent s'accumule rapidement. Passons au chapitre 6 de Matthieu pour un dernier verset. Il parle de ce principe qui consiste à faire de petits progrès dans l'acquisition d'habitudes. Matthieu 6 et le verset 34 disent ceci. Ne vous préoccupez donc pas du lendemain. Ne pensez pas au lendemain. Car le lendemain se chargera de penser à ses propres affaires. Le jour suffit à son malheur. Frères et sœurs, nous avons suffisamment de choses à faire dans notre vie aujourd'hui pour nous en sortir. Ne vous inquiétez pas pour demain. Les luttes que nous aurons à mener demain, nous les mènerons demain. Mais regardons simplement ce que nous avons à faire aujourd'hui. Frères et sœurs, si nous faisons cela en conjonction avec la recherche de ces indices qui nous aident à surmonter, pratiquement parlant, à surmonter certains péchés, frères, nous sommes bien, bien, bien sur notre chemin vers la construction non seulement d'une habitude pour 7 jours, mais d'une habitude qui durera jusqu'au royaume de Dieu.